Chapitre 8. Les deux types appuyés contre la voiture marron pisseux qui est garée devant son immeuble ont tellement l'air de flics qu'ils auraient dû rester en uniforme. Le plus jeune et plus grand des deux a une moustache de bandit et de longs favoris. Son épaisse chevelure descend jusqu'aux épaules de son manteau trois quarts en simili-cuir noir et une chaîne en or autour de son cou reflète la lumière du réverbère, le scintillement fait comme un clin d'œil à Mary Pat tandis qu'elle s'approche. Elle parierait qu'il a vu Serpico au moins trois fois. L'autre est plus petit, bien en chair, en passe de devenir grassouillet s'il ne fait pas attention. Il a le genre de visage qu'elle associe généralement aux boxeurs et aux usuriers. Il porte un chapeau pork pie. Il est un peu engoncé dans ses vêtements et sa cravate est de travers depuis le jour où il l'a achetée. Divorcé, devine-t-elle, des tas de plateaux repas devant la télé, un verre ou deux, seul. Une description, elle s'en rend compte rapidement, mais rejette l'idée tout aussi rapidement, qui pourrait s'appliquer à elle-même. En y regardant de plus près, elle situe son âge au milieu de la trentaine, 10 ans de moins que son estimation initiale, mais il y a des années difficiles incrustées quelque part dans ces décennies. Ils montrent leur insigne. Le plus jeune s'identifie comme étant l'inspecteur Pritchard. Le plus âgé est l'inspecteur Coyne.
Est-ce que Julie est là ?
Coyne a une voix étonnamment douce qui ne va pas avec le reste de sa personne. Non, elle n'est pas là.
Puis-je vous demander où elle pourrait se trouver ?
Encore une fois, le ton est presque courtois. Je ne sais pas. Moi-même, je la cherche.
Depuis quand ?
La question vient du jeune flic au manteau trois quarts. Le style est sec et sans le moindre soupçon de gentillesse. Je ne l'ai pas vue depuis...
Quelque chose se bloque dans sa gorge au moment où elle s'en rend compte.
48 heures.
Vous l'avez signalé à quelqu'un ?
À qui ?
À nous.
Qu'est-ce que vous allez faire ?
Vous la rechercheriez activement ?
Sans preuve formelle qu'on est en présence d'un acte criminel.
Le plus âgé secoue la tête.
Non, ça, on ne le fait pas.
Alors ça servira à quoi de le signaler ?
Il se regarde, hoche la tête et hausse les épaules en même temps.
Remarque pertinente.
Est-ce que on peut entrer ?
Demande Coyne. Pas question que Mary Pat soit vue en train de faire entrer de son plein gré deux flics dans son immeuble.
Ça serait comme amener un pornographe à un repas de Noël.
C'est le foutoir chez moi.
Coyne sourit poliment, mais ses yeux disent qu'il ne la croit pas.
Il y a un banc là-bas, ajoute-t-elle en l'indiquant de la tête.
Ils vont s'asseoir sur un banc face à un terrain de basket où il n'y a pas d'anneaux pour les paniers, juste les poteaux et les panneaux, sous des lumières qui donnent à l'atmosphère une couleur de moutarde brune. De temps à autre, une chauve-souris passe au-dessus de leur tête dans une trajectoire folle, comme un cerf-volant pris dans une tempête.
Coyne dit « Donc, la dernière fois que vous avez vu Julie, elle... »
« Jules !»« Pardon ?»« Personne ne l'appelle Julie, c'est Jules. » »«
Compris. »
La dernière fois que vous l'avez vue ?
Avant-hier soir, vers 8 heures.
Pritchard écrit cela dans son calepin.
On pourrait sauter cette connerie de va-et-vient question-réponse ? Demande-t-elle.
Bien sûr, dit Coyne sur un ton décontracté.
Et elle aime sa décontraction. C'est peut-être le premier flic qu'elle rencontre qui n'est pas un enfoiré de coureur de jupons à moitié bourré.
Ou peut-être qu'il est juste passé maître dans l'art de ressembler à un type bien.
Mary Pat glisse une cigarette entre ses lèvres et Coyne est là avec son zippo avant même qu'elle ait pu trouver son bic. Le zippo porte l'emblème du corps des Marines, l'aigle, le globe, l'encre, et des dates de service qu'elle ne distingue pas bien. Elle hoche la tête une fois que sa cigarette rougeoie et il retire son briquet avec un clic discret.
« Ma fille,
commence-t-elle, n'est pas rentrée à la maison samedi soir. Depuis, je la cherche. J'ai appris qu'elle était avec plusieurs personnes qui disent qu'elle se trouvait à Columbia Park, puis à Carson Beach entre 11h et minuit 45. Ces personnes sont Ronald Collins, Brenda Morello, George Dunbar, ainsi que ma nièce, Peg McAuliffe. Elle attend que Pritchard ait fini de noter les noms dans son petit calepin avant de continuer. Il y avait d'autres gosses là, mais je sais pas qui exactement. Ma nièce est partie avant minuit. George Dunbar et Ronald Collins affirment que ma fille les a quittés à minuit 45 pour rentrer à la maison à pied et c'est la dernière fois qu'elle a été vue par quelqu'un. « Cette histoire, vous y croyez ?» demande Pritchard tout en continuant à prendre des notes. « Non. C'est pour ça que vous avez cassé la gueule à Ronald Collins dans le bar de Marty Butler hier soir ?»«
Je ne sais pas de quoi vous voulez parler. »
Coyne se met à rire. « Toute la ville en parle, Madame Fennessy. » Pritchard dit « Putain ! Et vous lui avez coupé les couilles pendant que vous y étiez ? Elle a !»
lâche Coyne sèchement.
« Quoi ? On ne jure pas devant une femme. Et on ne parle pas des parties génitales. Des parties quoi ?»
Mary Pat lance un regard reconnaissant à Coyne. « C'est un truc du quartier. On ne jure pas devant une femme qu'on ne connaît pas, même si elle n'hésite pas à jurer comme un charretier. C'est considéré comme impoli. La même règle s'applique concernant les parties génitales. « Vous êtes d'où ? » demande-t-elle à Coyne, parce que, maintenant, elle sait que c'est un gars des cités, quelque part. D'un mouvement de la tête, il indique la direction de Dorchester.
« Savin Hill. »«
Sur une ville, » dit-elle.
« Vous avez du cran pour nous parler comme ça, »
dit-il en regardant autour de lui le désert de briques rouges de Commonwealth. Elle lui lance un sourire qui veut dire « touché ». Jules n'a contacté personne. Ni moi, ni son beau-père, ni ses amis, en tout cas d'après eux. Une mère sait des choses sur ses enfants.
Et qu'est-ce que vous savez ?
Qu'elle a des ennuis, répond Mary Pat en exhalant une bouffée de fumée grise et humide. Pourquoi vous voulez la voir ?
À votre avis ?
Les yeux de Coyne ne quittent pas ceux de Mary Pat. Elle regarde vers le terrain de basket vide. Elle entend la chauve-souris, quelque part, là-haut, en train de tournoyer désespérément dans le ciel. Elle se rappelle ce à quoi elle a pensé depuis que Ken Fenn a suggéré cette possibilité. C'est en rapport avec Augie Williamson, le gamin qui est mort à Columbia Station. Le visage de Coyne reste impénétrable.
Pourquoi dites-vous cela ?
Parce qu'elle se trouvait dans le coin avec quelques-uns de ses enfoirés d'amis, et maintenant vous posez des questions sur elle. Un plus un. Elle expédie d'une pichenette sa cigarette à travers le grillage sur le terrain de basket. Coyne en allume une pour lui et pose son briquet entre deux. Elle aperçoit la moitié du mot « Viet » qui ressort légèrement dans l'ombre qui tombe sur le banc. « Vous avez servi où ?» Une seconde, il ne comprend pas. Puis il remarque sur quoi elle a fixé son regard.
Un peu partout. C'était pas encore la guerre à l'époque. J'étais conseiller.
C'était déjà un vrai merdier.
Oh, ça oui, dit-il. C'était juste plus joli. On n'avait pas encore tout détruit. Le Viet Cong non plus. Mais on savait que ça allait partir en vrille. Même déjà à ce moment-là, en 62. « Vous connaissez quelqu'un qui y est allé ?»
Elle hoche la tête. « Mon fils. » Elle surprend Pritchard en train de lancer à Coyne un regard qui signifie « Faisons-la revenir à ce qui nous intéresse. » Mais Coyne se contente de faire baisser les yeux de son jeune équipier.
« Il s'en est sorti ?» demande-t-il à Mary Pat.
« D'une certaine façon, » répond-elle.
Comment ça, d'une certaine façon ?
Du regard, il balaie le terrain de basket comme si Noël pouvait s'y trouver à cet instant précis. Il a fait une overdose, dit-elle en jetant un coup d'œil à Coyne. Alors, d'une certaine façon,
il s'en est sorti. Et d'une certaine façon, il s'en est pas sorti. Pendant un moment, on dirait qu'il a oublié comment bouger. Sa peau d'un blanc crayeux trouve le moyen de prendre une nuance encore plus blanche et elle suppose qu'il a perdu quelqu'un de proche, un fils ou un frère, à cause de la poudre brune. Quand il prend son briquet sur le banc pour le remettre dans sa poche, elle remarque le très léger tremblement de sa main. Il laisse échapper un nuage de fumée. « Je suis désolée, Madame Fennessy. » Elle lui dit « Vous savez quel est le quartier qui a envoyé le plus de jeunes au Vietnam ?» Il essaie de deviner. « Ça aussi ?» Elle secoue la tête. « Charlestown. Mais ça aussi vient en deuxième. Ensuite Lynn, puis Dorchester, Roxbury. J'ai une cousine qui travaille au service de conscription. C'est elle qui m'a dit tout ça. Vous savez qu'il n'en a pas envoyé beaucoup au Vietnam ?»«
Je peux imaginer, » dit-il avec une amertume tellement ancienne qu'elle a un air d'apathie.
« Les gens de Dover, » dit-elle, « de Wellesley, de Newton et de Lincoln. Leurs gosses vont se planquer dans des facs et des grandes écoles et ils ont des docteurs pour certifier qu'ils souffrent d'acouphènes, qu'ils ont les pieds plats, des becs de perroquet, ou toutes sortes de conneries de ce genre. Et ce sont exactement les mêmes gens qui veulent que je mette ma fille dans un bus pour l'emmener à Roxbury, mais qui ne laisseraient pas un noir faire deux pas dans leur quartier, une fois qu'ils ont fait tondre leur pelouse et que le soleil se couche.
« Je ne vais pas vous contredire, » répond Coyne. « Et Jules, qu'est-ce qu'elle en pense ?» De devoir être transporté en bus jusque là-bas.
Elle le regarde fixement pendant un temps si long qu'il finit sa cigarette et commence à se sentir mal à l'aise.
Madame Fennessy ?
Elle voit où il veut en venir maintenant. Un jeune noir se précipite devant une rame de métro et vous pensez que des jeunes blancs sont impliqués d'une manière ou d'une autre parce que ça leur fout les boules de devoir prendre ces bus ?
Je n'ai pas dit ça.
Ce n'était pas nécessaire.
Et ce gosse s'est pas précipité devant une putain de rame, dit Pritchard.
Les mâchoires de Coyne se crispent et ses yeux aimables lancent un regard froid et pas du tout aimable à son équipier.
Il est mort comment ? Demande Mary Pat.
On attend encore une confirmation à ce sujet, répond Coyne. Pourquoi vous ne le demandez pas à votre fille ? Lance Pritchard.
Vince, dit Coyne à son équipier. Tu veux bien la fermer, s'il te plaît?
Fais-moi ce plaisir, tu veux?
Pritchard lève les yeux au ciel et hausse les épaules comme un adolescent. Coyne se retourne vers Mary Pat.
Nous avons des témoins qui ont vu August Williamson avoir des mots avec un groupe de jeunes blancs aux abords de Columbia Park vers minuit. Ensuite, ces jeunes l'ont poursuivi jusque dans Columbia Station, où il est mort. On ne peut pas confirmer que votre fille faisait partie de ce groupe de jeunes, mais ce qu'elle a de mieux à faire, c'est venir nous trouver avant qu'on la trouve, nous. Donc, Madame Fennessy, si vous savez où elle est, rendez-vous à vous-même un énorme service. Et dites-le nous.
Je ne sais pas où elle est, répond Mary Pat. Je m'arrache les cheveux pour essayer de la retrouver. Il soutient son regard. «
Je veux bien vous croire.
Je me fous pas mal que vous me croyiez ou non. Je veux seulement retrouver ma fille. Alors, si vous voulez vous lancer à sa recherche, je vous en prie, les gars. Ne vous gênez surtout pas. »
Coyne hoche la tête. « Connaissez-vous un endroit où elle serait susceptible de se cacher ?»«
Si Jules se cache, elle se cache quelque part dans sa vie secrète. » Celle qui implique probablement Frank Toomey, qui impliquerait, par association, Marty Butler. Et dire quoi que ce soit à un flic qui pourrait les conduire à Marty Butler, ça reviendrait à se fourrer la tête dans un four, ouvrir le gaz et allumer une dernière cigarette. Non. Elle s'efforce de ne pas laisser l'espoir transparaître dans ses yeux et sa voix, parce qu'il y a là enfin quelque chose qui tient debout. Si Jules s'est trouvé impliqué dans une connerie absurde quelconque qui a entraîné la mort de ce jeune noir, alors elle peut très bien se cacher quelque part dans un rayon de 10 rues autour de l'endroit où Mary Pat est assise en ce moment même. Et si c'est le cas, eh bien, Mary Pat se sent capable d'affronter n'importe quel sale pétrin dans lequel sa fille a pu se fourrer. Ça, elle peut s'en arranger.
Coyne lui tend une carte de visite. Lieutenant Michael Coyne, police de Boston, brigade criminelle. Brigade criminelle. Cri-mi-nel.
C'est pas la connerie habituelle qui vous vaudrait la visite d'un flic. C'est pas une affaire de vol à l'étalage ou de chèque sans provision. Ça, c'est aussi sérieux qu'une tumeur à un ovaire.
Coyne pointe le doigt sur sa carte.
Si elle montre le bout du nez, vous appelez ce numéro et vous leur demandez de vous passer ce poste. Ou alors, vous demandez juste mon nom.
Lieutenant Michael Coyne.
Bobby, dit-il. Tout le monde m'appelle Bobby.
Pourquoi ?
Il hausse les épaules.
Votre deuxième prénom, c'est quoi ?
David.
Mais tout le monde vous appelle Bobby.
Il hausse de nouveau les épaules. C'est la vie. Vous voyez ? Allez y comprendre quelque chose.
Ok, Bobby.
Elle met la carte dans sa poche. Il se lève, frotte les plis de son pantalon. Pritchard referme son calepin.
Si vous voyez votre fille, dit Coyne,
faites ce qu'il y a de mieux à faire, Madame Fennessy.
Et ça serait quoi ?
Faire en sorte qu'elle nous appelle sans tarder.
Elle hoche la tête.
C'est un oui.
C'est un hochement de tête.
Pour... je vais y réfléchir.
Pour j'ai bien entendu les mots qui sont sortis de votre bouche.
Elle ramasse ses cigarettes, puis se dirige vers son immeuble et rentre chez elle.